Shavua Tov, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de GLI qui s'appelle Conseil pour la vie. Conseil pour la vie, si Dieu veut, on va passer ensemble 6 merveilleux cours. C'est une série de 6 cours avec, ce qu'on aurait pu dire, partager les conseils richissimes du Rabbi pour avoir une vie meilleure dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, on va aborder le thème travail. La semaine prochaine, si Dieu veut, ce sera le thème famille. Après, on aura le thème santé. Après, on aura sur le thème de la positivité. Et on va voir au fur et à mesure qu'on avance combien des gens de tous bords sont venus justement pour pouvoir prendre des conseils auprès du Rabbi. Comme on en a parlé hier, quand on a présenté le cours, c'est vrai qu'en parlant du Rabbi, on peut en parler sans limite, et on en parle sans arrêt. Mais mis à part la notion du fait que le Rabbi était un énorme génie dans la Torah, les gens ne venaient pas seulement voir le Rabbi pour des conseils spirituels. Les gens venaient voir le Rabbi surtout pour et aussi des conseils dans tous les sujets de la vie de tous les jours. Et c'est pas le Rabbi qui l'a cherché, comme on dit. Parce que même si chaque cours de GLI, c'est des cours qui sont tellement investis, travaillés, comme aujourd'hui, le jour qu'on commence ce cours, il y a plus de 700 locations dans le monde qui commencent ce cours. Mais là, en étant le représentant du Rabbi en cinéma, et c'est vrai que tout ce qu'on enseigne et tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on fait, c'est basé sur les enseignements du Rabbi. C'est un énorme honneur de pouvoir partager cet enseignement parce que, comme on dit, on sait très bien que le Rabbi, c'est celui qui a changé l'image du peuple juif. En se rappelant qu'au départ, après quelques jours, je veux dire quelques années, juste après l'Holocauste en 1950, tout départ, le premier discours que Rabbi a prononcé, c'était Chabad était totalement, on va dire, presque anéanti, perdu à cause de la guerre, à cause des nazis. Que Dieu efface leur nom. Et c'est juste après que le premier discours que Rabbi a prononcé, c'était Yud Shvat 1950. 1951, il y avait peut-être une salle où il y avait peut-être 100 personnes à l'intérieur. De s'imaginer la révolution planétaire que Rabbi a fait juste après à niveau mondial qu'on a aujourd'hui. On voit comment la ville a transformé ce petit mouvement qui, à l'époque, était un mouvement de, on va dire, de gens qui parlent yiddish, russe, d'immigrants, en mouvement international qu'il est aujourd'hui, c'est énorme. Mais la vision du Rabbi a toujours été de pouvoir ne pas s'arrêter à son territoire, ne pas s'arrêter à sa communauté. La ville a dévoué son temps, son énergie pour essayer de rendre meilleur le bien-être spirituel et matériel du peuple juif dans le monde entier, et pas seulement le peuple juif, peu importe qui se tournait vers lui. Et donc c'est pour ça que des juifs qui... C'est très dur aujourd'hui de trouver un endroit dans le monde où il y a un juif qui peut dire qu'il n'a pas été en contact avec Chabad, que ce soit indirectement ou directement. Et depuis le début de tous les temps, depuis le début du mouvement Chabad, il y a 300 ans, le titre de Rabbi est venu d'exprimer justement qu'est-ce que ça veut dire un leader, qu'est-ce que ça veut dire celui qui dirige le peuple juif. Mais puisque Rabbi avait cette concern pour chaque juif, aujourd'hui la différence entre Rabbi et le Rabbi s'applique au Rabbi de Lubavitch. En 2024, quand tu dis le Rabbi, tout le monde sait à qui tu fais appel, à qui tu fais allusion. Un Rabbi, il y en a beaucoup des Rabbis, mais le Rabbi. Alors, beaucoup de gens connaissent le Rabbi sur différentes facettes. Mais une des choses que les gens connaissent moins le Rabbi, c'est sur le génie qu'il avait dans la Torah, avec les centaines et centaines de livres qui sont déjà publiés aujourd'hui sur les conseils du Rabbi, sur la créativité du Rabbi. Et plein de fois, le Rabbi pouvait parler pendant des heures et des heures, comme il a parlé plusieurs fois, dans des sujets qui sont sans limite, sans aucune note devant lui, sans aucun livre devant lui. Des sujets de tous bords qui sont de la société, sécurité d'Israël, les Juifs de Russie, sur les quatre des sujets qui concernent toute la planète, à part toutes les lettres qui sont imprimées du Rabbi. Aujourd'hui, on a des centaines de volumes de la Torah du Rabbi qui existent. Et c'est pour ça qu'avant de continuer, je vais vous montrer une vidéo. C'est des gens qui te racontent pourquoi ils sont venus eux-mêmes voir le Rabbi. Le premier qu'on vient de voir, c'est le maire de New York, Ed Karch, qui était juif, et qui raconte pourquoi il est venu voir le Rabbi, qu'est-ce qu'ils ont cherché en venant, demandant des conseils privés au Rabbi. C'est pas juste la communauté juive qui le valorisait. La communauté en général, le monde. Beaucoup sont venus ici pour demander sa bénédiction. Je vais faire une pause. Ici, c'était juste après que la ville nous a quittés matériellement en 1994, que le Sénat, le Congrès américain, a décidé de lui donner la médaille en or du Congrès, qui a été donnée rarement à quelques individus dans le monde, par tous les démocrates comme les républicains. Celui qui parle, c'est quelqu'un qui est un Africain-américain, qui est un membre du Congrès, et qui dit, comme quoi vous allez voir, je traduis, il dit aujourd'hui, on a décidé de donner à un homme qui a dédié sa vie en ramenant les gens ensemble. Donc c'est le speaker de la maison et moi. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais sur une chose on est d'accord. C'est de donner cette médaille qui a ramené les démocrates, les républicains, libéraux, conservatifs, du nord, du sud, noirs, blancs, hispaniques, nous ramener tous ensemble. C'était un rapport avec l'anniversaire 70e anniversaire du Rabbi. Ça, c'est Elie Wiesel qui parle. Je compare le Rabbi au Magid de Mezritch. C'est lui qui a créé le mouvement. Le Rabbi était comme le Magid. Il avait la vision, la connaissance, mais dans la vie pratique, c'était un architecte. Il savait qui envoyait où. T'as le volume sur le côté. Je pense qu'il savait exactement. Le Rabbi, c'était un architecte en ce respect. Il savait comment construire. Ça, c'est Menachem Begin. Je suis venu ici demander les bénédictions du Rabbi, dans le bureau du Rabbi. Un grand maître, notre grand maître, Rav Schneerson, qui est un grand homme en Israël. Nous tous on le respecte. Nous tous on accepte son jugement. C'est un grand admirateur de la maison d'Israël. Il a montré son profond sentiment d'amour pour nos enfants, pour le peuple juif. Ces bénédictions sont très importantes pour moi et j'espère qu'ils vont me renforcer dans cette grande mission importante que je vais maintenant remplir avec mon rendez-vous avec le président Carter, le président des États-Unis. Une personnalité unique, sans doute, qui sert comme le leader d'un énorme montant du peuple juif. Nombre du peuple juif. Une personne que d'un côté, il vit dans le monde de la Torah, mais il a aussi un énorme sens pratique des réalités de la vie partout dans le monde. Et il a une grande sensibilité pour préserver le peuple juif. Très commun. Des gens de tous bords venaient le voir pour demander au Rabbi ses conseils. Maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un il va dire oui, c'est normal, toi t'es un chassid Chabad, t'as rencontré le Rabbi, c'est normal que tu parles comme ça du Rabbi, etc. Oui, bien sûr, c'est tellement facile à le dire, mais qui dit que ça c'est la réalité? Pour ça, j'ai dit ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est des personnalités de tous bords, et pas seulement des personnalités, des gens de tous bords qui sont venus demander conseil au Rabbi pour le travail, pour les affaires, des gens qui sont des politiques. Des éducateurs, des chefs d'organisation qui sont venus voir le Rabbi pour demander des conseils sur tous les domaines. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir, qu'est-ce qu'ils ont cherché chez le Rabbi, pourquoi ils sont venus voir le Rabbi. Pourtant, c'était pas, je veux dire, le premier économiste du monde, c'était pas le premier. Il y a des gens plus intéressants sur Terre. Si tu cherches un conseil sur les affaires, pourquoi tu vas voir le Rabbi de Lubavitch? Tu cherches un conseil sur les affaires, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Mais ils sont venus le voir parce que c'est vrai que le Rabbi avait cette sagesse de la Torah qui est illimitée. Et en sachant qu'on peut, en s'appuyant sur la sagesse de la Torah, on pourrait avoir les meilleurs conseils possibles. Et donc, comme j'ai dit, c'est des gens qui ne sont pas venus voir le Rabbi pour des questions de Torah. Ils sont venus voir le Rabbi pour des questions de leadership, de stratégie, comment diriger telle ou telle chose. Mais c'était des gens qui sont venus voir le Rabbi pour demander des questions et des bénédictions pour tous les sujets de la vie, que ce soit la santé, que ce soit les relations, que ce soit le mariage, que ce soit la carrière, que ce soit le travail, que ce soit la santé émotionnelle, et la liste continue sans fin. Alors, on aurait pu dire, oui, c'est tout à fait normal. Venir demander une question à Rabbi pour ce qui est, un domaine spirituel, quelqu'un de saint, un miracle, ça on peut le comprendre. Mais pourquoi venir demander une question à Rabbi pour des choses qui sont apparemment rien à voir avec le spirituel. Là, on peut voir un dirigeant israélien qui vient avec un plan d'une des localités israéliennes qui vient d'établir en 1991 en montrant au rabbi où s'installer, où construire, etc. Pourquoi ces gens venaient voir le rabbi plus que d'autres spécialistes? Néanmoins, on voit que ces gens sont venus voir le rabbi dans tous ces domaines totalement différents et que le rabbi répondait. Alors ça pouvait être dans des audiences privées, ça pouvait être dans les dollars du dimanche, ça pouvait être par des réponses, par écrit, et le rabbi continuait à répondre et renseigner tous ces gens-là. Pourquoi ces gens-là venaient voir le rabbi avec de telles questions? Ça, c'est la question qu'on a ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tellement de gens de toute la planète venaient demander au rabbi des questions sur tous les sujets? Il y en a, puisque tout est en anglais aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore fait la traduction en français, est-ce qu'on a besoin que je traduise chaque chose ou pas? J'ai aucun problème à le faire. Mais si oui, dites-le-moi, comme ça je vais traduire chaque chose. De toute façon, on le fera. Pourquoi les gens demandaient des questions au rabbi? Et quelle force le rabbi avait pour pouvoir leur répondre? On va retourner à ces questions à la fin du cours aujourd'hui. Une fois qu'on verra et qu'on comprendra différents aspects de la vie du rabbi, qui a fait justement que les gens ont été attirés vers lui. Pour résumer ce premier chapitre qu'on vient de voir, à part être un Jewish leader, un leader du peuple juif, un énorme génie en Torah, les conseils du rabbi dans tout ce qui est la vie, les éléments de la vie profane, étaient recherchés par qui que ce soit. Et dans la leçon qu'on va voir aujourd'hui, on va voir des conseils que le rabbi a donné par rapport à tous ces sujets que les gens sont venus désespérément lui demander concernant la valeur travail. En passant par la valeur travail, on va voir aujourd'hui dans la leçon quelle était la vision du rabbi sur le travail, avoir une carrière, l'argent. On va voir l'approche du rabbi dans ces sujets qui est unique, basée sur la perspective de la Torah, la vie en général et dans le monde dans lequel nous vivons. Et on va voir combien il y a de différentes manières de regarder les choses, comment à certaines époques les choses étaient prises ou acceptées d'une certaine manière et comment le rabbi a transformé cette vision. Commençons avec le premier exercice aujourd'hui, pour ça vous avez les feuilles et les stylos. Et dans le livre, c'est la page numéro 4, qui est l'exercice numéro 1 que tout le monde a. Et on va vous poser une question à 4 réponses. La question est la suivante. Dans ton estimation, le test de la richesse, quelle est la vision juive sur le travail et une carrière? Numéro 1, est-ce que c'est quelque chose de mal, mais qui nous provient, qui nous donne le moyen de pouvoir servir Dieu pour étudier la Torah, faire les mitzvot, donner la tzaka, etc. B, est-ce que ça fait partie de la mission spirituelle et du voyage de chacun d'entre nous? Est-ce que c'est ni négatif, ni positif, tout le temps qu'on est honnête dans les affaires et tout le temps qu'on ne laisse pas les affaires consumer notre vie en excluant notre vie spirituelle? Ou bien, quatrième réponse, je répète, à ton estimation, comment tu considères la valeur travail et avoir une carrière dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Est-ce que c'est quelque chose qui est positif? Est-ce que c'est quelque chose qui est ni négatif ni positif tout le temps que je fais ce qu'il faut faire? Ou bien le chiffre 4, quelque chose d'autre? Quelqu'un veut se lancer? Positif? Tu dis B, ça veut dire que ça fait partie d'une mission spirituelle. Tu dis B. Qu'est-ce que tu dis?
C'est
chiant, j'ai pas lu. Alors, prends-le, pourquoi tu n'as pas
lu?
La question, tu as très bien, tu as ton portable. Vas-y. D'accord, alors, qu'est-ce que tu dis, Kevin? Positif, négatif?
Positif.
Positif. Tout d'un coup, on a fait des gens positifs aujourd'hui. Magnifique. Qu'est-ce que tu dis, toi? Laurence, qu'est-ce que tu dis?
Moi, je dis
la B. Donc, tout le monde est pour dire positif. C'est bizarre, j'entendais les autres réponses. Est-ce qu'avoir de l'argent, est-ce qu'avoir un travail, est-ce qu'avoir une carrière, est-ce que c'est quelque chose qui est positif, négatif, ni positif ni négatif, ou peu importe, autre chose?
Moi je dirais positif.
Moi je dirais neutre.
Ok, tout le monde dit neutre. Alors passons au deuxième point. Là vous allez voir qu'on rentre déjà un peu plus dur. La deuxième question, elle est à ton estimation. Quelle est la vision religieuse juive sur l'affluence, sur la richesse? Encourager, décourager, ou ça dépend? Est-ce que la Torah, elle encourage quelqu'un d'être riche? Est-ce que la Torah décourage les gens d'être riches? Ou ça dépend pourquoi?
Ça dépend.
Ça dépend. Moi, j'encourage d'être riche.
Ça dépend. Courage.
Pas pour aller jouer, pas pour le dépenser n'importe quoi, mais pour permettre de dire faire des bonnes sédacas.
Mais ça veut dire que tu dis que la Torah.
Tu dis que la parnassa vient aussi d'Hachem.
Je suis d'accord.
Si Hachem nous a confié une parnassa, c'est aussi pour l'utiliser à bon escient.
Très bien, donc non, tu dis que la Torah, elle encourage les gens à être riches.
Un franc, un euro.
Ça dépend la richesse, ça dépend.
Moi, je dis ça dépend.
Je ne parle pas de richesse.
Est-ce qu'il y a un but à devenir riche?
Il y a un matériel qui permet d'assouvir ou de nourrir ce que Dieu nous demande. C'est important.
Donc oui ou non? Oui. La Torah, elle pousse les gens à devenir riches?
Non.
Non. Toi, tu dis oui. Qu'est-ce que tu dis, toi?
Aucun des deux.
T'étouffes pas. Aucun des deux? Pourquoi aucun des deux? Est-ce que la Torah tient que tu dois devenir riche ou tu ne dois pas? Est-ce que tu dois tout faire pour devenir riche ou pas?
Oui.
Non, pourquoi pas?
Faut-il.
Pas obligé. Qu'est-ce que tu dis, toi?
Non.
Il n'y a pas un but à devenir riche.
Faut-il trouver le sens du mot.
Il y a un but. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est bien, on a moitié-moitié. Qu'est-ce que tu dis, Laurence?
Est-ce que moi je dis, c'est pas un but, mais c'est bien de l'être.
C'est bien de l'être.
Tout dépend quel sens on donne au mot riche.
C'est ce que d'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire que tout dépend? Riche à quoi? On n'a pas dit riche en paille.
Riche qui permet de
est-ce que ça permet de vivre à notre aise? J'suis ou est-ce que c'est plus que.
Je ne suis pas plus heureux avec 500 millions de francs.
Voilà, c'est ça. Hein.
Ok, alors on va tout de suite voir.
Non, parce que. Non, on ne peut pas être riche, on ne peut pas être bien avec 500 millions.
On va tout de suite voir.
On a des nouveaux amis. Bizarrement, on a un problème dans notre couple. On claque sans compter.
Elle parle d'expérience. Ok.
Okay.
Maintenant, regardons. Suivez à l'arrière, bien sûr, PowerPoint. Regardez comment on a la divergence entre les deux. Historiquement parlant, le peuple juif a toujours eu cette crainte de succès matériel et n'a jamais voulu avoir cette norme d'être riche. Historiquement parlant, c'était une valeur contradictoire à la religion. Le rabbi a changé cette approche et le rabbi a embrassé, si on peut dire, ce challenge, cette épreuve de la richesse en la considérant comme une bénédiction divine. Mais on va voir tout de suite dans les textes comment, historiquement parlant, le peuple juif a préféré ne pas avoir affaire avec la richesse. Regardons les textes. Vous avez ici le texte 1, page 5. D'accord? Vous l'avez dans votre livre. Texte 1a. On va voir, c'est écrit dans Deutéronome, chapitre 32, verset 15. C'est écrit noir sur blanc. Va Yishman, Yishurun, va Yivat, Yishurun, il a grandi, et il s'est rebellé. Et il est devenu plus gros, plus fort et plus arrogant. Et au final, il a laissé tomber Dieu qui l'a fabriqué. Et à la place, il a décidé de prendre comme prendre quelqu'un d'autre à sa place, en deux mots, de remplacer Dieu par la richesse, etc. Vous avez le texte numéro 2, Proverbe. Chapitre 18, verset 3, c'est exactement la même chose, qui te dit qu'une personne pauvre parle avec supplication, un riche répond avec impudence, qui veut dire avec arrogance. Vous avez dit tout à l'heure. Quelqu'un qui. Ça veut dire que quoi? On n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour réaliser que la richesse, et parfois une énorme richesse, peut distraire une personne de la poursuite spirituelle et peut parfois faire en sorte qu'une personne va avoir cette indulgence. Ce mauvais regard sur l'autre et même parfois laisser Dieu de côté. Ça peut parfois même amener la personne à l'arrogance, parfois à un ego démesuré et même à un manque de respect envers les autres, comme on vient de voir dans la deuxième texte. Et ça explique pourquoi à travers le temps les gens, beaucoup de juifs ont eu ce regard différent. Ont eu ce regard, on va dire, qui a été repoussé par rapport à la richesse en se disant « mieux pas pour nous ». C'est une très belle histoire, une blague, ça c'est pour Orlan. Il y avait une fois le rabbi des Tzatz qui était avec plusieurs chassidim, plusieurs disciples, et ils ont été interrompus par une femme qui était en train de pleurer, qui a dit qu'il veut absolument voir le rabbi. J'ai demandé « c'est quoi l'urgence ?» Il a entendu ce qui se passe dans le couloir, des gens qui pleurent, qui font du bruit. Et le shamash, le gabbai, le responsable, il répond en disant « il y a une femme qui est venue, elle a eu un mauvais rêve ». Il dit, laisse-la rentrer. Elle rentre en pleurant, elle dit, Rabbi, j'ai eu un rêve que mon seul fils que j'ai, il est lunatique. Alors, Rabbi de Tzatz, il a réfléchi pour un moment, il lui a dit, écoute, quand quelqu'un il a un tel rêve, c'est un signe que la personne va devenir riche. Alors, la personne, elle est partie, elle est totalement contente. Et quand les gabins, ils sont revenus, le secrétaire sont rentrés, ils demandaient au Rabbi, c'est quoi la source de ce qu'il vient de dire, d'où il a sorti une telle chose. Il a répondu en disant, c'est très simple. La majorité des riches sont lunatiques. Donc si elle a pensé que son fils est lunatique, certainement qu'il va devenir riche. D'accord? C'est une blague, mais c'est la réalité. On l'a vu, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines dans un cours qu'on pourrait voir sur retora.fr que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, à l'âge de 18 ans, quand Dieu lui a demandé, dis-moi une chose que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit à Dieu, je veux pas que tu me donnes ni la pauvreté, ni la richesse, mais donne-moi la sagesse, si vous vous rappelez. D'accord? Donc on voit qu'à chaque fois, quand on voit à travers le temps, on voit que l'approche a toujours été de mettre un point comme si d'écart ou de se séparer, de ne pas avoir affaire avec la richesse parce que c'est considéré comme quelque chose de négatif. Néanmoins, on va voir l'approche du Rabbi sur la richesse qui est vraiment remarquable. Une des fois que le Rabbi s'est exprimé dessus, c'était en 1958. C'est que le Rabbi, il a rarement quitté ses 27, comme on l'a parlé, il n'est jamais sorti de ses 27, une des rares fois qu'il est sorti, c'était pour aller consoler des endeuillés, surtout dans les premières années. C'était parfois des gens simples, ou même des rabbins, mais d'autres personnes. C'était en 1958. Le Rabbi est parti voir le Rabbi Avraham Yeshua Heschel, qui était connu comme le Rabbi de Kopichnitz. Et dans la conversation, ils ont discuté sur le fait qu'il faut trouver des moyens pour pouvoir, faire grandir les valeurs de la Torah, soutenir les institutions, etc. Et là, regardez le texte numéro 2, vous avez dans la page numéro 6. Vous savez comment le Rabbi discute avec lui en lui disant la phrase suivante. Le Rabbi dit au Rabbi de Kopichnitz, le Rabbi lui dit comme ça. Le peuple juif a besoin d'avoir une parnassa large, un gagne-pain large, sans aucun rapport avec le fait de soutenir les valeurs de la Torah dans certains endroits. C'est quelque chose de positif et quelque chose de bien pour que le peuple juif puisse avoir une vie large matérielle. Parce que par ça que quelqu'un il a une vie large matérielle, il pourra avoir une largesse de pensée, comme les Chachamim nous disent dans la Gemara Brachot, page 57b. Celui qui a une maison large, matériellement parlant, ça élargit sa pensée. Quelqu'un qui rentre dans un endroit où il fait 2 mètres carrés, il est un peu enfermé sur lui. Quelqu'un qui a un peu d'air, qui a un peu d'espace, et qui voit un peu plus large, c'est différent. Et donc le Rabbi lui termine en lui disant que Dieu fasse que tous les Juifs soient riches. 1958. D'accord? Le Rabbi de Kopichnitz, qui était très âgé, le Rabbi était à l'époque jeune, on était dans la cinquantaine, il répond au Rabbi en disant, la richesse est une grande épreuve. J'ai peur de l'épreuve, du challenge de la richesse. C'est encore une fois l'approche qui a toujours été par tout le monde. Le Rabbi lui reprend en lui disant, même la pauvreté c'est une épreuve. La pauvreté aussi c'est un test. Et le Rabbi dit, si quelqu'un doit déjà avoir un test, vaut mieux qu'il ait le test de la richesse que d'avoir le test de la pauvreté. Et que Dieu aide qu'on puisse réussir en ayant le test de la richesse. Et ça, je dis clairement, tu demandes à n'importe quelle personne aujourd'hui sur Terre, tu préfères avoir... Dieu te dit, j'ai un test à te donner, richesse ou pauvreté, qu'est-ce que tu choisis? Je ne pense pas qu'il y a une personne ici qui va dire, je vais avoir le test de la pauvreté.
Ça fait quand même peur, la richesse.
Ça commence. T'as toujours quelqu'un qui a dit le contraire de la norme.
Je dis pas
tu peux avoir le test de la pauvreté?
Non,
alors,
la richesse fait quand même peur.
Alors réponds-moi, t'as un ou l'autre, tu ne peux pas être au milieu.
Je pense qu'avec la pauvreté, on peut se faire aider que la richesse, on est perdu.
Que Dieu nous en préserve. Si tu penses que c'est quelque chose de facile de pouvoir se faire aider, je suis pas d'accord, c'est tellement difficile. Continuons la discussion. Parce que la discussion, elle a continué que quoi?
C'est dangereux que la thèse de la pauvreté, parce que je peux pas, je n'ai rien.
La question, elle n'est pas quoi faire. Et tu vas voir après. La discussion, elle a continué sur différents sujets. Et à la fin, avant de partir, le Rabbi n'a pas lâché l'affaire. Avant de partir, le Rabbi continue. Le Rabbi a demandé au Kopichnitz en lui disant, j'aurais bien voulu vous demander d'être d'accord avec moi que le peuple juif soit béni avec la richesse. C'est très bien que des tzedikim quand ils décident quelque chose. Et le Rabbi de Kopichnitz a répondu, Rabbi, bien sûr, je suis d'accord. En même temps, le Rabbi a dit, je ne suis pas d'accord d'entendre un juif qui dit qu'il veut que Dieu ne donne pas la richesse au peuple juif. Non, le peuple juif doit être riche. Parce qu'on sait très bien que les décisions qu'un tzedik fait sur terre, ça oblige Dieu à le faire. Mais non. Le Rabbi lui-même, on va tout de suite voir des vidéos, le Rabbi lui-même a clairement expliqué que la richesse, c'est un test. Pas de discussion sur ça. La Gemara nous dit que Rabbi elle avait l'habitude d'honorer les gens riches. Alors beaucoup de gens se posaient la question, comment est-ce possible? Le Rabbi a une fois parlé de ça en 1952 en expliquant que pourquoi Rabbi Yehuda, il honorait les gens riches. Parce que Dieu a décidé de les rendre ses banquiers, de les nommer ses banquiers sur terre. C'est pas que ces gens riches, on les honore parce qu'ils ont de l'argent en compte. Tu dois honorer quelqu'un de riche parce que ce riche, C'est Dieu qui lui a confié cet argent, c'est-à-dire que Dieu considère ce riche comme son banquier sur terre. Si Dieu fait confiance à cette personne, et pour ça il lui donne son argent, pour ça j'ai un devoir de l'honorer. C'est ce que la Gemara nous dit. Maintenant, la Bible explique plusieurs fois que la pauvreté, c'est aussi un test de foi. Est-ce que quelqu'un continue à croire en Dieu, et à croire dans son abondance infinie, quand il a des difficultés financières? Il y a des gens qui se posent des questions, il y a quelqu'un qui se dit, c'est quoi ça? Ça fait mal au cœur. Je voudrais pouvoir acheter telle chose, je ne peux pas. Je voudrais pouvoir faire 1000 scènes, 1000 ans, je ne peux pas. Néanmoins, malgré que les deux sont un test, l'Arabi a toujours insisté que le test de la richesse est préférable. Et l'Arabi, il n'a pas, sans hésitation, il n'a pas hésité à vouloir bénir chacun avec un succès financier, sans limite, et de pousser chacun à réaliser que c'est une bénédiction divine que chacun doit avoir et chacun doit obtenir. Un des derniers discours que la Bible a mentionné en 1992, c'était que Dieu il a décidé dans la Torah, la Parashat Trouma, quand on parle de construire le temple, que chaque juif doit être riche, matériellement et spirituellement. On parle de vraie richesse, la Bible. Que chaque juif doit tout faire pour devenir riche. Pas seulement riche dans la connaissance, comme on dit, mais riche dans la Torah et les mitzvot, riche matériellement, pour que grâce à ça, il puisse faire Torah et mitzvot avec tranquillité de l'âme, tranquillité du corps, et donner la tzedaka au maximum et pouvoir faire les mitzvot avec la plus belle beauté. Regardons ce qui s'est passé. Purim, 1900 et une seconde. Tu vois? Une seconde.
We'll start with Purim.
Regardons ce qui s'est passé. Purim, 1955. On va voir comment il y avait une audience privée, une chassidique avec des centaines à l'époque de milliers de personnes. Et la Bible dit que maintenant, c'est un moment que Dieu dans le ciel a ouvert les portes pour devenir riche. D'abord, la Bible parle longuement pour expliquer comme quoi la richesse est un test difficile. Et que c'est un test que pas tout le monde peut pouvoir y faire face. Et que parfois, quelqu'un, grâce à cause du test de la richesse, peut tomber et faire des erreurs. Et après, ça, la Bible dit, maintenant, c'est un moment que dans le ciel, les portes ouvertes sont pour tout celui qui veut devenir riche, qui puisse devenir riche. Qui prend sur lui le test de la richesse ? On a une fois que l'Abbé te parle pendant longtemps, comme quoi la richesse est un grand danger, etc. Il faut être fou pour lever la main. Et néanmoins, il y a quelques personnes qui ont levé la main et qui ont dit « Moi, je suis prêt à prendre le test !» Ils sont tous devenus milliardaires. Donc ça, c'était pourri 1955. Le test de la richesse est un test très difficile. Néanmoins, si chaque juif pouvait devenir riche, l'Abbé rigole, c'est pourri. En Amérique, la coutume est de voter sur chaque chose. Et donc, tout celui qui est d'accord de prendre sur lui que Dieu lui donne une richesse abondante et qu'il n'a pas peur des difficultés de mauvais penchants à cause de la richesse, qu'il lève sa main droite avec un cœur parfait, avec un cœur entier. Et tout le monde s'éclate de rire, c'est comme si c'est une blague qui va le faire. Et donc, le test de Fabringen, il a béni tout celui qui veut devenir riche, qui lève sa main. Maintenant, qui avait l'audacité de demander au Rabbi quelque chose de matériel? Le Rabbi, c'est quelque chose de spirituel. Et donc, la majorité des gens n'avaient pas l'audacité de lever leur main. Le Rabbi continue en disant, après, les gens, ils se plaignent qu'il y a des difficultés. Maintenant, c'est un moment propice. Et là, on est en train d'essayer de jouer, qu'on est Chabad, etc. On dit que c'est un moment propice où vous levez la main, levez la main. Il y avait 6 ou 7 personnes qui ont levé leur main. Ils sont tous devenus des millionnaires. Et puis moi, j'ai demandé au Rabbi Bracha. J'avais pas de parnassa à l'époque. Le Rabbi m'a dit que je rentre dans les affaires de l'immobilier. Ce que j'ai fait. J'ai dit, Rémi, que j'ai pas d'argent. Rémi m'a dit, t'as pas besoin d'argent pour commencer l'immobilier. Et donc, j'ai fait certaines manœuvres. On a acheté 2 maisons sans argent. Et ça nous a fait rentrer dans les affaires de l'immobilier. Et grâce à Dieu, on a réussi notre vie. Et c'était un millionnaire. Tu comprends? Il te fait comme si, ouais, on a gagné un peu, on a gagné, acheté des baguettes par jour. Mais il a commencé en te disant comme j'étais là. Il a commencé ce test qui s'était passé ce jour-là. D'accord, une fois. Donc on voit, qu'est-ce qu'on revient à ce qu'on est en train de voir, ce qu'on vient de voir. que l'approche du rabbi est énorme, qu'il faut devenir riche. Même si le rabbi était d'accord sur le fait que c'est un test. Et donc on revient avec la question qu'on demandait tout à l'heure. Pourquoi ? Pourquoi le rabbi serait celui qui va pousser les gens à devenir riches ? Et pour comprendre l'approche du rabbi sur la richesse, il faudrait essayer d'abord d'apprécier l'approche du rabbi sur le travail tout court. Là, on a les deux approches différentes sur l'écran. L'approche numéro un, c'est l'approche de la société. L'approche de la société qui est que le travail, c'est une chose nécessaire, même on va dire quelque chose de mal, mais qui est motivé par un besoin. En deux mots, puisque je dois payer des factures, puisque je dois vivre, pour ça je dois travailler. Ce qui voudrait dire que si je n'ai pas besoin de payer de factures ou si j'ai de l'argent en banque, je n'ai pas besoin de travailler. Ça, c'est une approche. Alors que l'approche de Rabbi, c'était que chaque partie de notre vie a un but. Le travail et le succès financier a aussi un but en soi. Parce que la société, elle a tendance à regarder le travail comme quelque chose de pas forcément bien. On a besoin de travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins de la famille. Et donc même si parfois, à cause de ça, on ne peut pas faire des choses beaucoup plus importantes dans la vie, mais on doit travailler parce qu'il faut travailler. Après, tu as des gens qui vont dire non, qui sont contents de leur travail. Et ils disent que le travail, ce n'est pas seulement pour gagner leur vie, c'est pour quelque chose de plus important. Le rabbi regardait le travail de manière totalement différente. Pour le rabbi, chaque partie de la vie, elle a un but. Même la carrière d'une personne, elle a un but. Le travail et le succès financier, c'est beaucoup plus que juste pour pouvoir subvenir aux besoins d'une personne. C'est avec un but beaucoup plus élevé. Et ce but, c'est ce qu'on va découvrir. Parce qu'une des besoins, je veux dire, une des bases fondamentales de la Chassidut Chabad, basée sur le Midrash, c'est que le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur Terre, c'est pour rendre ce monde un monde dans lequel Dieu est présent. Pour rendre ce monde un monde dans lequel la divinité est présente. Et ça, c'est pas seulement dans les choses spirituelles, mais essentiellement faire descendre Dieu dans les choses matérielles, dans la réalité profonde, dans la réalité qui est totalement déconnectée, si on peut dire, du spirituel. Et ça, c'est la réalité par l'évidence de la manière comment Dieu a créé le monde. Le fait même que Dieu a structuré le monde et notre existence dans le monde d'une manière qu'on passe la majorité de notre temps à faire des choses profanes, à travailler notre carrière, ça c'est quelque chose que la Torah, elle regarde avec les yeux de la Torah, qui veut dire que Dieu ne nous a pas demandé de se battre contre ce monde. C'est Dieu qui a décidé que le monde devait agir de cette manière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand Dieu il a dit qu'on rentre en Israël, on rentre dans la terre, on devra travailler la terre pendant 6 ans, et la 7e année devra se reposer. C'est d'après la Torah. La majorité du temps que Dieu nous a donné, c'est pour travailler. Seulement une fois tous les 7 ans, on doit dédier cette année à Dieu. La même chose quand on parle de la vie de tous les jours. Comme on l'a dit hier, quand j'étais dans le cours la semaine dernière, il n'y a pas une seule fois que la Torah te dit qu'il faut faire Shabbat avant de te dire 6 jours tu travailleras. Chaque fois que la Torah te dit qu'il faut faire Shabbat, tu dis d'abord 6 jours tu travailleras, qui veut dire que la Torah considère. Dieu a mis en place le monde d'une manière qu'on doit travailler 6 jours. Shabbat, c'est dédié à Dieu. Et pareil dans la vie de chaque jour. Une partie minoritaire de la journée est consacrée à la prière et est consacrée à l'étude, alors que la grande partie de la journée est considérée au travail. Eh bien, le rabbi nous explique. Vous avez dans le texte numéro 3, page 8. Le rabbi l'a dit en 1950. A priori, ça même, c'est difficile à comprendre. Puisque Dieu nous a choisis parmi toutes les nations et nous a élevés, Dieu aurait dû fixer le comportement du peuple juif d'une manière que la majorité du temps soit consacrée aux choses saintes. Apprendre la Torah, faire les mitzvot, travailler dans le temple. Pourquoi la Torah l'a fixé la vie d'un être humain d'une manière que la majorité du temps doit s'occuper des choses profanes comme les nations du monde? Et l'explication, elle est que puisque le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est parce que Dieu voulait avoir une résidence ici-bas, dans le monde le plus bas. C'est pour ça que l'essentiel, la majorité du travail de chacun d'entre nous n'est pas dans les sujets de sainteté. Comme par exemple le Neshama avant et après qu'elle est descendue sur terre pour s'habiller dans un corps. Mais Dieu, il a fait en sorte qu'on soit occupé essentiellement avec les sujets du monde. 6 jours, tu planteras ton champ. Que même dans les champs, les choses les plus profanes sur terre, c'est là-bas qu'on va faire la divinité, qu'on va faire la résidence pour Dieu dans ce monde. C'est que si le but, en deux mots, si le but de notre existence sur terre, c'était de se séparer du monde profane et d'être cloisonné dans la synagogue ou dans le collège ou dans la yeshiva ou de s'enfermer pour prier toute la journée, apprendre toute la journée, méditer toute la journée, ça aurait été la manière comment Dieu aurait créé son monde. Le fait que le but de la création est d'amener la divinité et la sainteté sur place dans les quatre coins du monde, et le fait que ça, c'est la manière comme Dieu il a fait en sorte que le monde fonctionne, c'est ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Et donc, le goal, le but ultime, c'est d'être avec des valeurs éthiques, saintes et une personne spirituelle, gouvernée par les valeurs de la Torah dans le domaine du travail. Ça veut dire aller travailler et d'être un modèle pour l'humanité tout entière, être un modèle pour ceux qui nous regardent, pour les individus qui nous regardent. Malgré tout ce qui peut se passer au bureau, rester une personne qui a un but beaucoup plus élevé, d'avoir des valeurs spirituelles, une aspiration spirituelle, tout en travaillant. Être ce qu'il faut être, pas dans le monde spirituel, mais dans le monde matériel. Question, oui.
Il faut travailler.
Alors,
en Israël, il y a beaucoup de...
On en a parlé hier, t'étais pas là.
Ça y est, alors parce que j'étais pas là, j'ai pas...
D'abord, il n'y a pas beaucoup. Tu en fais un monde, tu dis beaucoup. Non, on a répondu hier. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est mal connaître le monde religieux. La grande majorité du monde religieux travaille à plein temps, et même en Israël, une énorme majorité du monde religieux travaille à plein temps. Il y en a qui arrangent leur journée de pouvoir apprendre une heure par jour et de travailler le reste de la journée, mais la grande majorité du monde religieux travaille. C'est pas beaucoup.
Non, en Galoute, c'est plus de 5 jours sur 7, plus de 6 sur 7.
Pourquoi 5 sur 7 7 sur 6 sur 7, pourquoi pas? Pourquoi 5? Vous êtes dimanche à vendredi, 6 jours par semaine?
En général, en France,
on travaille pas. Oui, c'est pas la France, c'est pas en Amérique, les gens travaillent de dimanche à vendredi. Dans les quatre coins du monde, les gens travaillent des dimanches à vendredi. Et même en France, quelqu'un veut travailler dimanche.
Pour la minorité, ils sont toute la journée en yeshiva.
On fait pas un cours pour les minorités. On fait un cours pour la norme. Le fait que tu as des gens minoritaires, va leur demander la question, on verra après. Bah, c'est leur problème. Qu'est-ce que je te dis? Oui.
Et les
encore une fois, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Oui, clairement, une femme a la rôle de se consacrer à l'éducation des enfants, mais pas que. Et contrairement à ce qu'on pense, combien de fois la Bible disait aux femmes qu'ils ont un devoir d'être aussi occupées par le travail, que c'est très destructive pour une femme d'être enfermée toute la journée à la maison et de ne pas sortir travailler. Il y a des dizaines de réponses dans lesquelles la Bible demandait aux femmes qui au moins aient un travail d'une demi-journée par jour. Juste pour ne pas être dans ce concours d'être enfermée dans la maison toute la journée, enfant, cuisine, c'est pas ça le but. Parce qu'une personne normale peut disjoncter à cause de ça. Et une personne normale doit se sentir productive. Ouais. Une personne normale doit se sentir avec une créativité. Maintenant, d'aller dans l'autre extrême, que des gens mettent le fait d'avoir des enfants 10 ans plus tard parce que j'ai ma carrière, ou bien que le fait des gens qu'ils ont des enfants et qu'ils les jettent comme des serpillères avec des personnes, qui des nounous ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants parce qu'il y a le travail qui est plus important que les enfants. Il faut avoir la balance entre les deux. Mais clairement, ce n'est pas parce qu'une personne a un enfant que pour ça, elle n'a plus le droit d'être en activité et de travailler et d'être productif. Comme j'ai dit tout à l'heure, même quelqu'un qui vit sur des milliards en compte, ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on va tout de suite voir, on va arriver à ça à la fin. Et donc, la page numéro 9, on a terminé à la page numéro 9, et on va voir le résumé de ce qu'on va voir jusqu'à présent. L'Arbi tient que le travail n'est pas juste un moyen nécessaire pour obtenir un gagne-pain, pour pouvoir payer ses factures, etc. Mais ça a un but et une valeur tout à fait à part entière. Dieu a créé le monde d'une manière que la majorité du temps qu'on a est engagé dans le travail, parce que ça, c'est le but de pouvoir vivre dans le travail, dans la société, avec les valeurs de la Torah. En plus de faire descendre ce but spirituel sur Terre, là, il a montré aussi que le travail, c'est aussi, plein de fois, ça donne une opportunité unique de pouvoir impacter du bien chez les autres et d'inspirer les autres à pouvoir aussi s'engager dans leur voyage spirituel. Quand quelqu'un va travailler, automatiquement, tu rencontres des autres personnes dans la même profession et tu peux avoir une influence spirituelle sur eux. Regardons ici le texte numéro 4, que vous avez dans la page numéro 10. Le texte numéro 4, c'est un yom yom du 16 hier que le rabbi précédent y raconte en disant que mon grand-père, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shmuel de Lubavitch, était en 1882, il avait un disciple proche, Rabbi Eliyahu Abeller, qui était quelqu'un de simple en termes de connaissances, en termes de capacité. Il est rentré une fois en audience privée chez le Rabbi. Et le Rabbi lui dit comme ça, « Eliyahu, appelle Eliyahu, je suis jaloux de toi. Toi, tu voyages sur le marché, tu vois beaucoup de monde. Et quand en plein milieu des affaires, tu parles avec quelqu'un sur un mot du judaïsme, que ce soit sur le Hein Yaakov, bref, un mot de Torah, et tu l'encourages à apprendre Nigler, Chassidut, de ça a une grande joie dans le ciel. Et la marchandise, on demande le salaire, la récompense à ça. Dieu te récompense par ça qui t'envoie une abondance dans les enfants, la richesse et la parnassa. Et plus grand est le marché, plus il y a du travail et plus grande est la parnassa. Regardons ici une magnifique vidéo, c'est la vidéo numéro 3, dans laquelle on va voir, comme on l'a vu justement, il encourageait les gens, on va voir un directeur, quelqu'un qui travaillait à IBM à l'époque, je sais pas si ça existe toujours. Meir Zeiler, comme on l'a vu, il a montré que même si tu es dans des expositions pour le travail ou quoi que ce soit, le but n'était pas d'être là-bas pour ton travail, le but c'était d'avoir un rôle spirituel. Au passage, j'avais aussi le travail. On était tout à l'heure à la vidéo numéro 3. J'ai commencé un nouveau travail à IBM. 5 mètres 87. La Bible a dit ce jour-là que chacun est comme un shliach, un envoyé, un émissaire. Je ne savais pas qu'est-ce que la Bible veut dire. Peut-être la Bible veut dire que je dois partir de mon travail et commencer à devenir un shliach ou quelque chose d'autre. J'ai écrit au Rabbi, est-ce que je vais partir de mon travail à IBM? Qu'est-ce que le Rabbi attend de moi? Le Rabbi a souligné ma question et il a écrit pourquoi? Pourquoi tu quittais son travail? Pourquoi tu dois partir de ton travail chez IBM? Je veux que tu restes où tu es, être là-bas, mon Shliach. Il avait dit, Dieu dirige les pas de l'homme. Où quelqu'un se trouve, peu importe la situation, tu dois faire en sorte que le nom de Dieu réside là-bas. Parce que Dieu réside parmi vous. En commençant par ton environnement immédiat. Et aussi illuminer tout ce qui est autour de toi, éclairer ce qui est autour de toi. Et fait ça, c'est ce que j'ai continué à faire. Je suis resté à IBM, j'ai eu une carrière vraiment réussie. Et puis on voudrait remercier énormément M. Rappaport d'IBM. C'est un des gens les plus respectés à IBM. Mais je sentais tout le temps que je faisais la mission que l'Abbé m'a donnée. En d'autres mots, je donnais des conversations, des conférences dans le monde entier. Et pas de l'intelligence artificielle. Que parmi toute ma carrière, j'écrivais au Rabbi. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais. Fait les gens les plus élevés avec qui j'ai été en contact, des politiciens, des CEO, des journalistes du monde entier. Ils sont venus voir chez IBM qu'est-ce que j'ai fait comme recherche. J'ai rencontré tous ces gens-là, avec ma kippa, avec ma barbe. Automatiquement, ça avait un impact sur ces gens-là. Des juifs du monde entier venaient me voir. J'étais un shliach dans cette manière-là. C'est-à-dire, j'avais ma mission et mon rôle dans mon domaine de travail. Là, un juif qui vient voir le rabbi dit que le centre de Rav Avsan est Hong Kong va être terminé. Le rabbi dit c'est très bien que Hong Kong, c'est un endroit que beaucoup de gens visitent. Pour beaucoup de juifs de plusieurs pays. Tu peux les influencer quand ils sont à Hong Kong. Et quand ils retournent à la maison. Qui rajoutent dans leur judaïsme. Ça sera aussi ton business. On ne mettait pas là-bas juste pour tes affaires. C'est d'influencer les autres juifs. Lui dit, je suis un architecte naval. J'ai une grande fabrique. Il y a 2 ans, par le mérite d'une aide du rabbi. On a reçu un grand contrat. $2 million de les militaires de l'armée américaine. 1 mois après que j'ai reçu la lettre du Rabbi, on a reçu la plus grande proposition de job par la militaire américaine. Rabbi, que ce soit un bon début, que tu pourras faire encore le double. Il me dit, j'espère, j'essaye. Il dit, beaucoup de nos employés ne sont pas du tout religieux. Ils sont devenus plus religieux grâce à ça. Ça, c'est grâce au Rabbi. Rabbi dit, donc ça t'en oblige à rajouter encore plus dans ta pratique. Parce que quand ils vont voir que toi tu agis comme ça, ils vont continuer ton exemple, au moins à un certain niveau. Une grande exposition qu'on a l'habitude de faire, c'est à Bruxelles. C'était dans tout ce qui est une exposition de tout ce qui est de matière première en termes de tissu. J'ai vu une fois un juif qui est venu là-bas, il savait que je vais lui demander ce qu'il a mis les tchilines. Cette exposition, c'était dimanche, lundi, mardi et mercredi. Rosh Hashanah, c'était lundi soir. Non, aller à l'exposition pour une demi-journée, pour jusqu'à lundi, ça ne valait pas la peine. De l'autre côté, je sais que l'ami voulait que je sois là-bas. Donc on va partir à l'exposition. Rabbi Kharikov m'appelle, il m'a dit que l'Arabie l'a proposé, on met un grand panneau au début de l'exposition, que puisque Shabbat, à cause de Shabbat, on est fermé à vendredi à 2h30, et donc comme ça les clients ils vont savoir que s'ils veulent quelque chose, il faut qu'ils viennent tout de suite, pas attendre plus tard dans l'exposition. À 1h30 l'après-midi, je vois quelqu'un qui vient, il passe devant notre stand, il y a des milliers de personnes qui passent, mais je vois qu'il nous regarde, il regarde le panneau, et il me demande, dis-moi, pourquoi c'est fermé Shabbat? C'est une exposition internationale. Pourquoi c'est fermé Rosh Hashanah? J'ai dit, d'où tu viens, monsieur? Il fait bien appelé, je suis un Polonais, un juif. Donc j'ai dit, ah, j'ai affaire avec un juif. J'ai dit, viens, on met les tefilines. Il me regarde comme si je suis fou, dans une exposition internationale. Il fait tefilines, qui croit dans ces choses aujourd'hui? J'ai dit, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en rien. Fait, je suis passé par Hitler. Quel rapport avec les tefillines? J'ai jamais mis les tefillines de ma vie. J'ai dit, mon ami, je te comprends à 100%. Une fois dans ta vie, tu n'as pas fait la même chose, tu m'as dit. Il fait, tu as, une fois dans ta vie, tu pourras dire que Dieu n'a pas agi comme il fallait envers toi, mais toi, tu as fait la bar mitzvah. Il a enlevé sa veste, on a mis les tefillines. La minute où il a fait Shema Israël, il a commencé à pleurer. Il a dit, je ne peux pas. Mais il tient au tefillin. Il s'est assis. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment me remercier. Tu peux t'imaginer comment elle a senti. Il fait business. On n'a pas fait beaucoup de business ce jour-là. Mais on savait qu'au moins avant la nouvelle année, on a mis les tefillin avec ce juif. Donc encore une fois, on a ici ce qu'on vient voir tout à l'heure. On a vite dit que parfois, tu penses que tu es parti faire des affaires quelque part. Ou tu fais des affaires, mais tu peux avoir un impact positif sur beaucoup d'autres personnes. Continuons la suite, on est maintenant avec le troisième point. Et donc, ce qu'on vient de voir, c'est que le travail, ça donne une opportunité importante à chacun d'en pouvoir avoir un impact sur les autres et d'encourager les autres. Et ça fait partie aussi du fait qu'on a un travail. Quelqu'un qui est enfermé chez soi ou qui est enfermé à la synagogue ou qui n'a pas de travail, eh bien, il ne peut pas avoir un impact positif sur les autres. Alors, continuons avec la suite. Pourquoi on travaille? Est-ce que quelqu'un va dire pour gagner sa vie? Ok. Pourquoi on a besoin de gagner sa vie? Pour la majorité des gens, si j'ai besoin de gagner ma vie, c'est parce que si je travaille, c'est pour pouvoir quoi? Payer des factures, comme on a dit tout à l'heure. Payer des factures pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc jusqu'à présent, quand vous voyez sur l'écran, on a déjà vu deux points. Point numéro un, c'est amener la valeur de la Torah et la sainteté dans le travail. C'est le but pourquoi Dieu nous a créés sur Terre. Deuxièmement, ça te donne des opportunités uniques de pouvoir inspirer les autres, impacter les autres, d'être des meilleures personnes et d'être des meilleurs juifs. Là, on va arriver au troisième point, c'est que, au final, travailler n'est pas que pour soi. Tu travailles pour pouvoir donner. Parce que la Torah, elle vient, elle te dit, comme c'est écrit dans le Tanya, on va le voir dans le texte numéro 5, page numéro 12. Le mot Azakan, il te dit, « Mi kamcha ki Israël ga'yichad ba'aretz » qui est comme ton peuple Israël, une nation sur terre. L'implication que le fait que même dans les sujets de la terre, on ne peut pas se séparer de Dieu. Et c'est pour ça que la demande de qualité dit, c'est pour ça que c'est approprié. On ne doit pas s'imaginer qu'on a un but en soi d'avoir affaire avec les choses matérielles, seulement pour faire vivre nos âmes et remplir nos manques avec une bonté gratuite, que dans ça, Dieu nous a comparé à Dieu lui-même, que Dieu il a agi en bonté envers nous, de pouvoir faire de la bonté envers chacun à chaque instant. Ça, c'est le but aussi pourquoi on travaille. Dans ce passage, l'amour dans lequel il vient, il te dit l'idée qui est basée, qui est solide dans la philosophie du Rabbi, qui est que la notion du travail matériel et la notion du spirituel est indissociable. On n'est pas plus juif à la synagogue que dans la rue. Chaque matin, un juif, il a l'habitude de fermer les yeux et de dire « Shema Israël, croire dans l'unité de Dieu ». Mais qu'est-ce qui se passe quand on est sorti de la synagogue? Est-ce qu'on doit commencer à agir maintenant contrairement aux valeurs du judaïsme? Bien au contraire, la Moïse Akin insiste en te disant que le travail, c'est une manière différente de servir Dieu, comme on sert Dieu à la synagogue. On travaille pour pouvoir servir Dieu. Dieu nous donne, et c'est la raison pour laquelle on doit partager. Et pour pouvoir donner, il faut pouvoir gagner. quelqu'un qui ne gagne pas d'argent, il ne peut pas donner. Cette perspective, c'était la manière comme Rabbi a toujours encouragé les gens à pouvoir travailler, agir, gagner encore plus pour pouvoir donner encore plus. En 1959, il y avait le Rav Yechezkel Springer, un chassid Chabad, qui était il avait une ferme à Kfar Chabad. En 1970, il avait une opportunité de pouvoir agrandir la ferme et de pouvoir agrandir son business. Mais il avait un conflit. D'un côté, il s'est dit, c'est une grande opportunité, c'est un business opportunité importante qui a un grand potentiel de pouvoir ajouter dans ses revenus. De l'autre côté, il dit, je fais déjà assez, j'ai déjà une belle vie. Et de maintenant investir encore plus dans les affaires, ça va faire en sorte que je devais voir encore donner encore beaucoup plus de temps, d'énergie et d'efforts dans mes affaires. Ce qui va officiellement diminuer mon temps que j'aurais pu peut-être investir dans l'étude de la Torah et dans mon épanouissement spirituel. Il a demandé au Rabbi quoi faire. Regardez le texte numéro 6, page 13, comment le Rabbi lui a répondu. Le Rabbi lui a répondu à sa question en lui disant, « Ça que vous me demandez si vous devez vouloir encore plus gagner, si c'est quelque chose de désirable, le Rabbi sur ça a déjà une réponse, que sur la tzaka, on doit donner le maaser. On sait que la meilleure mitzvah, ce n'est pas seulement le maaser un dixième, mais un vingtième. Et comme c'est écrit dans le Igaret HaTshuva et le Igaret HaKodesh Admor HaZaken encore plus, donc c'est compréhensible. Quand on sait que les institutions, quand on sait que les institutions communautaires ont besoin d'aide, plus le besoin est grand, vous devez tout faire pour gagner encore plus. Et donc automatiquement donner encore plus de tzaka et automatiquement avoir encore plus de rentrées. Mais au contraire, il ne faut pas se limiter à se dire non, le minimum syndical. Fais tout pour gagner plus. C'est pas ça que tu vas gagner plus. Tu vas pouvoir donner encore plus. Regardons la prochaine vidéo. Et là, on va voir justement David Mintz, qui est le fondateur d'une des plus grosses compagnies de glace en Amérique, qui s'appelle Tufuti, très connu, qui a jusqu'à que la Bible lui a clairement interdit de vendre ses affaires. C'est clair qu'il avait toutes ses affaires, il avait un business qui réussissait énormément. La Bible lui a interdit de vendre son business en lui disant que si tu vas le vendre, tu ne vas pas pouvoir donner la tzaka comme tu donnes aujourd'hui, continue à le garder, parce que ça, tu pourras faire encore plus ce qu'il faut. Je suis venu voir demander le conseil du Rabbi. Ils veulent que je vende mon affaire. Le Rabbi dit, vends ton affaire. Il dit, oui, ils me poussent, ils me mettent la pression pour la vendre. De vendre quoi, le Rabbi dit, vendre les magasins ou vendre tout l'affaire, tout le business. Il dit, non, aujourd'hui l'affaire ne marche pas comme il faut. Il me dit qu'il faudrait la vendre. Ils disent que la compagnie, elle peut investir, elle peut s'expandre, elle peut grandir. Si d'autres personnes vont venir avec beaucoup d'argent. Le Rabbi dit, c'est quelque chose de bien, pourquoi tu veux la vendre? Il fait, non, j'ai pas envie. Il fait, le Rabbi, nous. Le Rabbi dit quoi? Le Rabbi dit, non, tu dois continuer. Et si tu veux, tu peux vendre une partie. Mais l'argent que tu veux recevoir, tu dois l'investir dans la compagnie. Mais tu dois rester actif, le Rabbi dit. Dieu, il veut que tu continues à donner de la charité. Et beaucoup de charité. Comme tu as fait jusqu'à présent. C'est pourquoi tu veux maintenant donner ton affaire à quelqu'un d'autre. Donc le Rabbi pense que je dois continuer. Fais oui. Mais je ne dis pas que tu dois continuer tout. Si tu veux vendre une partie, il n'y a pas de problème. Et, mais une condition que la partie que tu gagnes, tu l'investis, tu l'as agrandie et tu l'as fortifiée encore plus. Que même quelqu'un qui avait, c'est quelqu'un qui n'était pas dans la rue, il avait tout ce qu'il faut. C'était ça, j'ai plus besoin de casse-tête d'ennui, il y a trop d'ennui. Laisse-moi tranquille, je m'en sépare. Le Rabbi dit pas question. Tu vas rester inactif, aujourd'hui tu donnes zaka, pourquoi tu vas t'en séparer? Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? La vidéo, on l'a vu. Troisième point qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est que plus quelqu'un y gagne, plus quelqu'un il peut donner pour des causes charitables. Et ça aussi, c'est une cause importante. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Rabbi disait clairement que le Rabbi veut que les gens puissent vivre de manière large, matériellement, et ça leur amènera aussi une largesse spirituellement. Le troisième point qu'on va toucher aujourd'hui, c'est un point qui touche beaucoup de vieillards qui sont assis ici à la table, et ça, c'est déjà, on est à la page 15, et ça, c'est par rapport à la retraite. On va voir un exercice ensemble. Qu'est-ce que tu considères, ça c'est pour toi, parce que tu es proche de la retraite, qu'est-ce que tu considères l'âge optimal pour la retraite? 41-50, 51-60, 61-70, après 70 ou autre.
Le 2.
Le 2, 51-60, l'âge optimal de la retraite. Et quel âge tu as aujourd'hui ? Que Dieu nous en préserve. Tu as ici l'hôpital psychiatrique à côté qui est ouvert. Je t'amène juste après. Ça veut dire que si tu es en bonne santé et tu vas aujourd'hui, la longévité s'allonge tous les jours et que tu as des gens qui partent du monde aujourd'hui à 120 ans voire plus, c'est que tu es prêt à jeter moitié de ta vie à la poubelle.
La 3, c'est quoi?
La 3, c'était 61-70, c'est pas mieux. C'est honteux. Ça montre quoi? De quoi est fait la jeunesse aujourd'hui? Très grave. Qu'est-ce que tu dis toi?
Moi, je me dis autre.
Dis-moi un chiffre.
Non, pas de chiffre. J'aurais dit.
C'est-à-dire pas de chiffre. Hein?
Tu peux travailler.
Hein?
Tant que tu as la capacité de travailler.
C'est qui décide que tu as la capacité de travailler?
Bah, toi. C'est nous-mêmes. C'est-à-dire que si on se dit on peut encore aller continuer de travailler, garder le même rythme, bah.
C'est pas un âge, mais c'est la.
C'est soi-même.
Et pourquoi tu te dis pas plus tu travailles, plus tu pourras avoir la force de travailler?
Oui, mais...
Oui, c'est pas ce qu'il t'a dit.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Donc tais-toi.
Non, mais je suis...
Non, mais il a raison.
Okay.
Il a raison
quoi? Plus
parce
tu travailles.
Parce que si on a 70 ans et qu'on est cassé du dos... Et
pourquoi
et...
tu prends toujours l'exemple tordu?
Non, c'est pas tordu.
Pourquoi tu dis pas si t'as 80 ans et t'es pas cassé du dos?
Et bah tu continues.
Pourquoi tu dis pas
et
t'as
bah,
des gens... Tu vois aujourd'hui en Amérique, tu vas en Israël, tu vas dans des endroits, tu vois des gens de 95 ans qui sont docteurs, qui sont avocats, qui sont dans les supermarchés, qui sont ramenés des cartons dans les années, et qui sont tout va bien. Mais non, je ne prends pas l'exemple de celui qui a un dos cassé à 50 ans, c'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un qui a un dos cassé à 50 ans, tant pis pour lui, qu'est-ce que je fasse? Ça fait de la peine qu'il aille autre chose.
Mais attends-toi, il y a des docteurs qui ont un docteur qui est là.
Je suis d'accord, donc je suis d'accord une fois. Donc l'idée, elle est, si Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné la capacité de pouvoir vivre à 120 ans, travaille à 120 ans, quel est le problème? En deux mots, c'est ce qu'on va tout de suite voir. En 2021, l'âge moyen de la retraite aux États-Unis, parce que ça coûte que t'es fan américain, c'était 65 ans pour les hommes, 62 pour les femmes. C'était en 2021, d'accord? Mais c'est pas obligatoire. D'accord? C'est à partir de quand tu pourrais éventuellement prendre ta retraite. Mais non, les gens, ils passent parfois des années à planifier par rapport à la retraite. T'as des gens que toute leur carrière est basée sur... Qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de la retraite? À un certain moment, tu as des gens, des fois, qui sont sécurisés par rapport à leur vie sans pouvoir travailler. Et donc, pour eux, ils se disent, c'est quoi, ça y est, maintenant j'ai assez d'argent en compte. Retraite, 55 ans, 50 ans fonctionnaire. Maintenant, je peux avoir 70 ans à rien faire. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire jeter une vie entière dans laquelle tu peux être productif, dans laquelle tu peux être pour la société, dans laquelle tu peux agir comme quelqu'un. Mais il n'y a pas qu'association, il y a dans tout. Parce que quelqu'un qui a 60 ans, il est moins bien que quelqu'un qui a 20 ans, qui n'a rien dans la tête.
Il y a
des gens qui ont énormément d'expérience, donc ils peuvent créer, qui peuvent être créatifs. J'ai d'accord, enfin, regarde dans le grand monde. Tu vois des gens qui ont un certain âge avancé, et qui sont des chefs de société, des chefs d'entreprise, et qui réussissent énormément. C'est écrit nulle part que parce que tu arrives à un certain âge, tu dois te mettre en retrait. Quelqu'un, il peut penser que des perspectives juives, la retraite, c'est quelque chose d'idéal. La retraite, ça te donne du temps en plus pour pouvoir apprendre la Torah, pour pouvoir prier, passer 3 heures à la synagogue par jour, et investir plus de temps dans la poursuite spirituelle. Basé sur tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on va voir que ce n'est pas surprenant que le rabbi était 100% contre cette approche. Regardons la prochaine vidéo. Et on va voir comment le rabbi parle justement contre cette approche, et contre cette idée de vouloir valoriser la valeur retraite. Je ne suis plus quelqu'un de jeune. Est-ce que je dois prendre la retraite? Est-ce que le rabbi pense que je dois prendre la retraite de mon affaire? Le rabbi lui dit non, je ne crois pas à la retraite, comme je t'ai dit la dernière fois. Comment je peux avoir la force de continuer? Le rabbi lui dit de Dieu. Ça, c'est d'où chacun prend la force. Pourquoi tu vas chercher pour une nouvelle source? Est-ce que le rabbi peut venir avec une bonne santé? Le rabbi dit que vous deux soyez en bonne santé, que vos enfants soient en bonne santé. Et que tu en puisses entendre des bonnes nouvelles et que tu aies un bon Pessah Kachav avec sa mère. Réponds à lui toi aussi. Et oublie de la retraite, Rabbi lui dit. Ça te distrait à vous deux, toi et lui. Il dit merci beaucoup. Avec sourire. Il a dit bonne nouvelle. Il dit je vais prendre mon Dieu de ma retraite. J'ai un peu de trépidation par rapport à l'autre, je doute. Il a dit pourquoi tu te forces à prendre la retraite? Qui te force à prendre la retraite? Tu peux aider encore aujourd'hui. La retraite, c'est seulement pour des bonnes vieilles personnes. Et toi, tu es une personne jeune. Il fait, mais je vais avoir 75 ans. Il avait dit, mais jusqu'à 120 ans, combien d'années tu as? Il fait, jusqu'à 120 ans, tu as encore 45 ans. Il a dit, Rabbi, merci. Rabbi, ce serait bien pour le business. Et certainement de continuer dans les affaires. Ne même pas penser que Dieu nous en préserve à la retraite. C'est un des plus grands philanthropes américains. Tu dois gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir donner encore plus de charité et de faire ça avec une bonne humeur et en bonne santé, ensemble avec toute ta famille. Ça avance, t'inquiète pas, je ne vais pas aller à la retraite, il dit Rabbi. Rabbi oublie la retraite. Moi, encore une fois, entre nous, par là, j'ai entendu. Le Rabbi a montré l'exemple, c'est pas qu'il disait ça aux gens de faire. Le Rabbi a 92 ans, travaillé à plein temps. On a dit, on est parti au OL, le Rabbi était debout sur le OL pendant 7-8 heures, prié pour le peuple juif à l'âge de 90 ans. Le Rabbi s'est pas dit, quand les gens, on va tout de suite voir justement, quand le Rabbi est venu à l'âge de 70 ans, 62 ans, en 1972, il y avait la grande Fabringen, qui était la réunion chassidique qui a été organisée pour les 70 ans du Rabbi. Rabbi, il a parlé, il a fait part justement du fait qu'il a reçu des conseils de beaucoup d'admirateurs, que maintenant il devrait lever le pied. 70 ans, il est temps de se reposer, etc. Et Rabbi, il a dit que d'abord, il a énormément critiqué cette idée de vouloir aller à la retraite. Il a dit qu'au contraire, le travail maintenant doit rajouter dans le travail. Il a dit que maintenant, il va commencer une nouvelle initiative d'ouvrir 71 nouvelles institutions dans la nouvelle année, parce qu'il vient d'avoir 70 ans. Pourquoi Rabbi était tellement, on va dire, opposé? Pourquoi Rabbi était tellement opposé à la retraite? Qu'est-ce qu'il y avait tellement de dur que la retraite? Maintenant qu'on a compris l'importance du travail, et l'importance de travailler, et l'importance que quelqu'un est là en travaillant, on peut comprendre la valeur que la vue du Rabbi par rapport à la retraite. Parce que si le travail, c'est seulement de remplir le but de la vie, alors la retraite, c'est de se dire que, ok, j'ai plus aucun but, et maintenant j'ai plus aucune raison à être sur Terre, pour ça je dois aller à la retraite. Et donc on revient à la question qu'on a demandé sur la retraite. Le but de travailler, c'est pas juste pour avoir et payer des factures comme on l'a dit au départ, mais c'est d'amener la divinité sur terre, de faire entrer la Torah au travail, d'inspirer et d'avoir un impact sur les autres, de devenir des meilleures personnes, des meilleurs juifs, de pouvoir donner la charité au maximum. Ce que Dieu leur a donné, un succès, la réussite, ça inclut d'avoir un travail, une carrière, un business. Ils ont la responsabilité de continuer à utiliser cette plateforme de manière productive. Si maintenant la richesse, c'est pas juste un confort personnel, mais c'est une partie de la mission qu'une personne a là pour aider les autres. Quel droit une personne a là d'aller à la retraite? Aller à la retraite, ça veut dire de se rejeter le bien, de rejeter le cadeau que Dieu il a donné à une personne. Écoutez une magnifique histoire que la Bible a racontée à plusieurs reprises. Il y avait une fois quelqu'un de très très riche et un carrossier qui sont arrivés dans une ville, en Pologne, en Russie, etc. Le riche, il est parti à l'hôtel du quartier, et le carrossier, il est parti pour aller arranger ses affaires, etc. Les deux sont partis se préparer pour Shabbat, ils ont pris une douche, et après ils sont partis à la synagogue pour la prière du soir. En route vers la synagogue, le businessman, il a vu un grand wagon, une grande charrette, qui est partie, comme le vendredi, qui a fait hors piste, et qui était bloqué dans un tas de boue et quoi que ce soit. Et donc, il est parti pour aider. Le businessman il est parti dans le tas de boue pour essayer de retirer la charrette avec le chauffeur, avec le carrossier qui était vraiment à moitié perdu. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a jamais fait ça dans sa vie, c'était pas du tout son rôle ni quoi que ce soit, quand il a essayé de retirer la charrette de la boue avec toutes ses forces, avec l'autre personne, il a essayé de faire le maximum, mais au final, il avait les pieds dans la boue, le costume dans la boue, tout ce qui était vraiment... Le pauvre, il n'était pas dans ses meilleurs états. Il a réussi à esquinter son costume de Shabbat, ses affaires de Shabbat. Et bref, à part ça qu'il s'est fait casser une main, casser un pied, bref, il n'était pas dans les meilleurs états possibles. Et au final, il n'est même pas réussi à tirer le carrosse de la boue. Il a fait tout ce qu'il pouvait, il a parlé. Il arrive à la synagogue Shabbat, à moitié cassé, à moitié brisé, avec des blessures de tous les côtés, totalement sale. Okay. En attendant, on a notre carrossier qui est parti, que lui, il est arrivé à la synagogue très tôt, et il a pris son temps, il a récité le carrossier qu'on a vu au début de l'histoire. Il est assis à la synagogue, il dit des psaumes, et à la synagogue, il voit des gens qui, à chaque fois, cherchaient à être invités. Il les a tous invités chez lui à la maison pour le manger de Shabbat. Maintenant, quand la responsable de la synagogue va voir le pauvre qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de maison pour essayer de le manger, à qui il va se faire inviter ce Shabbat, il dit non, on a déjà tous été invités, telle personne nous a déjà invités pour la maison de Shabbat. Maintenant, la réalité, elle est que ce carrossier n'a pas les moyens du riche pour inviter tout le monde. Et il n'avait même pas la place pour pouvoir avoir autant d'invités chez lui à la maison. Au final, ils étaient à la maison, mais bref, c'était mignon, mais ce n'était pas du tout ce qu'ils auraient pu attendre. Elle lui dit comme ça, le carrossier qui, avec ses 20 ans d'expérience, il a l'habitude de tirer les carrossiers, les charrettes de la boue, lui, il a décidé de remplir, de nourrir toute une grande armée. Alors que le grand businessman, qui n'a jamais eu l'habitude de faire une chose pareille, qu'en général, les restes de son repas de Shabbat pouvaient nourrir des centaines de personnes, lui, il a fait le travail du carrossier. En deux mots, l'ami, il a raconté dans cette histoire comment chacun, il a fait le travail qu'il ne fallait pas, chacun, il a fait les missions qu'il ne fallait pas, et ce n'était pas les devoirs qu'il devait faire. Donc, l'ami critiquait la retraite, pourquoi? Parce qu'il considère, comme on a vu jusqu'à présent, que le travail, c'est quoi? C'est un moyen de remplir le but de la vie de chacun d'entre nous. Alors, la retraite, c'est de renier ce bien et de renier le devoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Terminons avec le dernier point qu'on a aujourd'hui. Et comme on a dit, que dans tous les aspects de la vie, on a besoin d'investir des efforts et les résultats des efforts, c'est un cadeau de Dieu. Le succès financier n'est pas différent. C'est pour ça que l'Abbé demandait à chaque fois qu'on doit toujours, toujours ne pas oublier, avec de nombreux exemples, comment l'Abbé donnait des conseils dans les affaires à chacun. On va voir ici plusieurs conseils que l'Abbé donnait comment réussir dans les affaires. La première des choses, l'Abbé rappelait à tout le monde d'avoir l'aïmouna, d'avoir le bitachon, en disant que le fait que quelqu'un qui a un bitachon, qu'il a la foi en Dieu, il est garanti de pouvoir être un catalyse pour réussir dans les affaires. Regardez le texte numéro 7 qui se trouve à la page numéro 16. Une merveilleuse lettre en anglais que l'Abbé a écrit en 1959, j'ai reçu ta lettre dans laquelle tu m'écris sur ton anxiété en rapport avec le travail, avec la parnassa. Tu sais qu'est-ce que nos sages, ils nous ont donné, ils nous ont parlé plusieurs fois sur l'importance de la confiance et la croyance en Dieu pour pouvoir réaliser que toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie sont seulement en réalité des tests de tests passagers. Et donc pour être sûr, la question de la parnassa, c'est un des plus grands tests que quelqu'un peut avoir. Néanmoins, Dieu n'est pas sujet à... Il n'y a pas un test auquel il ne peut pas faire face, comme la Torah nous enseigne, qu'on doit charger le chameau en fonction de sa capacité, c'est écrit dans la Gemara Ketuvot. Et donc le fait même d'avoir confiance en Dieu, ça c'est un canot, et ça c'est un tuyau, c'est un moyen de recevoir la bénédiction de Dieu. À part le fait qu'une telle confiance, c'est aussi bien pour la santé d'une personne. Et donc c'est aussi le moyen de pouvoir obtenir les bénédictions de tout ce qu'on a besoin. Alors lui, il disait clairement que les investissements spirituels, ça aussi a le secret de pouvoir réussir dans la vie de tous les jours, inclus financièrement. La première des choses, avoir la foi. Deuxièmement, le deuxième point que la Bible encourage à chaque fois, bien sûr, c'est de ce qu'on appelle être fermé pour Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire être fermé pour Shabbat? Il n'y a pas de secret qu'avoir un travail, un magasin ou dans un endroit qu'il y a le plus grand business le jour du Shabbat, c'est un grand test. Et c'est pas particulièrement quand l'argent parfois est difficile. Néanmoins, la Bible encourage les gens de se dire qu'en faisant ce que Dieu nous demande, c'est comme ça qu'on réussit encore plus. Alors le fait de pouvoir fermer Shabbat, on peut comprendre qu'il y a des gens qui disent que ça peut parfois leur être incompréhensible et difficile. Dans beaucoup d'industries, et particulièrement dans tout ce qui sont les commerces, qui sont dans les centres commerciaux, etc. Les gens te disent, c'est le jour où il y a le plus de monde qui fréquente, comment je peux fermer le magasin Shabbat? Mais justement, être fermé Shabbat, pour beaucoup de gens, c'est comme si c'est un sacrifice. Parce qu'au final, ça peut parfois leur dire de toucher leur gain, mais si c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, alors il faut se rappeler que dans cette base non dualiste du monde, l'approche du rabbin était différente. On ne peut pas que ça soit pris comme un sacrifice. Parce que si le spirituel et le matériel sont deux côtés de la même pièce et qu'on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre, par ça qu'on fait Shabbat, ça ne peut que rajouter dans la bénédiction du travail. Et l'Abbé avait cette énorme croyance et confiance que Dieu dirige le monde. Et c'est impossible de penser que Dieu ne va pas être favoriser ceux qui observent ses commandements. Même si ça paraît à l'apparence être contre-productif, au contraire, si tu penses avoir fait un sacrifice pour la Torah et les mitzvot, ça peut amener seulement un plus grand salaire et une plus grande récompense. Regardons le texte numéro 8 dans la page numéro 17. Une lettre que l'ami a écrite en 1961, c'est clair pour tout celui qui n'est pas biaisé. Et c'est même aussi ce qu'on appelle le common sense, le sens commun. Que Dieu, qui est celui qui a donné la Torah et les mitzvot, c'est aussi le créateur du monde. Qu'il a il peut donner la providence, il peut donner ce qu'il faut à chacun de manière individuelle. Et donc c'est totalement compréhensible et logique qu'il ne peut pas que rien de mal, que rien de bien sur le long terme peut venir du fait que quelqu'un ne va pas faire les lois que Dieu demande. Particulièrement une loi comme la loi de Shabbat, parce que c'est énormément important pour le gagne-pain d'une personne, pour l'argent que quelqu'un peut gagner. Et que Dieu il veut que ce que tu gagnes, tu puisses le dépenser pour des choses joyeuses, pour une santé joyeuse. Tout ça, ça dépend des mains de Dieu. Et donc, vu ce qu'on vient de voir, c'est très clair que ton attitude doit être, même si tu n'as pas pour l'instant de proposition de business immédiate, c'est nécessaire, sans reporter plus tard, de ne pas prendre une offre d'un business qui peut interférer avec l'observation de Shabbat, en ayant la confiance en Dieu direct, que celui qui est capable de nourrir 3 milliards de personnes sur la planète et tout ce qui vit sur la planète, il est capable de te nourrir à toi et ta famille et te provenir tout ce que tu as besoin comme source de panassa qui ne soit pas en conflit avec la volonté de Dieu. Donc à part le fait de faire Shabbat qui rajoute dans la bénédiction de Dieu dans les affaires, c'est aussi un moyen de pouvoir recevoir encore plus de panassa parce que je fais ce que Dieu nous demande. Écoutons et regardons cette magnifique vidéo. Deux personnes montrent comment leur vie a donné des conseils à des gens. De ne pas regarder, de regarder le fait de ne pas travailler Shabbat comme la clé de la réussite dans les affaires. Et ils vont vous dire comment clairement c'était quelque chose qui était impensable. Ils n'étaient pas du tout religieux et que grâce à ça, leur vie a totalement changé. J'ai commencé un magasin un grand magasin de David à Los Angeles. Attends, on va commencer au départ. À Los Angeles, 300 000 billets. C'est un énorme magasin. Je me suis dit, j'avais vraiment envie de travailler, fermer Shabbat. J'ai pas envie de travailler Shabbat. Mais c'était très difficile de penser à une chose pareille. Parce que tous les magasins, tout le business qu'on faisait, c'est Shabbat. Shabbat, je vendais entre 5 000, 10 000, 15 000 dollars le jour de Shabbat. Dans la semaine, peut-être 100, 150. Il n'y avait aucun rapport entre les deux. Et j'ai pris un loyer pour 20 ans, j'avais signé. Le patron m'a averti depuis le départ. Mais si tu penses laisser le contrat, je vais courir derrière toi toute ta vie. Je ne vais pas te laisser partir. Tu as signé le contrat 20 ans, c'est 20 ans. Donc j'ai écrit au Rabbi. J'ai dit, Rabbi, j'ai décidé de fermer mon magasin Shabbat. Je voudrais une bracha, que je ne sois pas blessé à cause de ça, que je n'ai pas de malheur à cause de ça. J'ai reçu une réponse. Dans l'enveloppe que je vois, il y avait 18 dollars. Et là-bas, c'est écrit. Premièrement, Shabbat commence à partir du coucher du soleil, vendredi. Deuxièmement, propage la Torah avec la joie. Troisièmement, donne la tzedaka. Donne la tzedaka de l'argent que je t'ai donné. Le lendemain, j'ai décidé, ok, je vais signer le contrat. Je vais signer le contrat. Et le patron n'était pas là. Je reviens à mon magasin. Il y a quelqu'un qui rentre dans mon magasin. Il veut acheter le magasin, il me dit. Je lui dis, mais va chez le patron. Il m'a dit, j'étais chez le patron. Il m'a dit de venir te voir. Il m'a dit, qu'est-ce que le patron il te dit? Il m'a dit, c'est toi qui as le contrat dans les mains. Il a pris un chèque, son chéquier, et m'a écrit un beau chèque. Je veux juste te dire qu'avec ce chèque, j'ai acheté une maison. Et j'ai commencé à faire tout ce qui est manufacturé. Ça, c'est lui dans la vidéo. Et je me rappelle aller voir le Rabbi, le dollar du dimanche. J'ai dit, Rabbi, j'ai eu un miracle avec le magasin. Rabbi, il a rigolé et il a fait comme ça avec la main. Il m'a dit, ah, parle pas de ce miracle. Fait, nous trois, on a un business et on ferme Shabbat. On voudrait avoir la bracha du Rabbi. Rabbi dit, tu fais Shabbat et Yom Tov? Il fait, Shabbat et Yom Tov, on est fermé. Rabbi dit, la première des choses, c'est de faire Shabbat. Dieu nous a demandé de faire Shabbat. Dieu nous a donné Shabbat dans les 10 commandements. Il a demandé à chacun de faire Shabbat à travers tous les âges, sans distinction. J'ai commencé mon travail, New Latter Avenue, et les choses n'avaient l'air pas tellement roses, comme on dit. J'avais un ami, c'est un dentiste. Et je lui ai dit qu'on a des problèmes. Ce jeune homme, il m'a dit que le rabbi pourrait m'aider. Donc j'ai fait un rendez-vous avec le rabbi. J'ai commencé à lui dire que ça ne va pas terrible les affaires à Brooklyn, et que je n'arrive pas à trouver une place à Bayside, et que je voulais commencer un bureau là-bas. Il m'a dit, est-ce que tu travailles Shabbat? J'ai dit oui, je travaille Shabbat. Il m'a dit, maintenant tu vas dans une nouvelle place, maintenant tu déménages, peut-être pense à ne pas travailler Shabbat. Et ça s'est connu que Dr. Walensky ne va pas travailler samedi. Et c'était quelque chose que personne ne pensait à l'époque. Dr. Walensky va à la synagogue. J'ai réussi énormément dans les affaires, financièrement. Même la manière comment je vivais ma vie, je me sentais beaucoup plus satisfait, beaucoup plus tranquille avec moi-même. J'étais très satisfait d'être juif. Encore une fois, des témoignages comme ça, on en a sans limite. Maintenant, un autre point qu'on n'a pas abordé, et ça c'est, encore une fois, je dis à chaque fois, l'avant-dernier point, et ça, hein, c'est le point du fait que par ça, que quelqu'un y réussit dans les affaires, l'arbitre considérait que ce n'est pas suffisant de travailler, mais de faire rentrer la portion d'avoir un temps fixe d'étude de la Torah chaque jour. Et ça, c'est une mitzvah qui est aussi importante pour celui qui travaille. Parce que pour l'arbitre, ce n'était pas de sacrifier du temps du travail pour l'étude. Mais non, on ne peut pas dissocier les deux. Et justement, en 1990, l'arbitre a parlé à un groupe de partenaires, un groupe de supporters de Machane Israël, qui est le fond du Rabbi. Et l'arbitre a montré comment c'est important pour la réussite dans les affaires de consacrer un temps à l'étude. Regardons dans le texte numéro 9, page numéro 19, en 1951. La Bible dit qu'un businessman doit consacrer une partie de son temps chaque jour à étudier la Torah. Et par ça, ce n'est pas seulement qu'il ne va pas manquer dans sa réussite et dans sa concentration du temps qu'il doit avoir pour réussir dans ses affaires, mais au contraire, par ça qu'il a un temps qu'il consacre à l'étude, ça va, pour lui, ça va chez lui être de manière beaucoup plus calme, une tête beaucoup plus claire, beaucoup plus calme, pour pouvoir penser, agir, et pouvoir faire ce qu'il faut dans les affaires de manière beaucoup plus courte que qu'est-ce que ça prend chez d'autres personnes. Et par ça, il va avoir une beaucoup plus grande réussite dans les affaires et aussi dans la joie. Et comme c'est écrit dans la Torah, si tu vas dans mes lois et tu gardes mes mitzvot, à ce moment-là, je mettrai la pluie, tu recevras la pluie en son temps. C'est pour ça qu'on apprend la Torah comme Rashi te dit, Dieu il envoie toutes les bénédictions sur terre, qu'on n'a pas de souci que les bénédictions ne vont pas être en retard, non, ils vont arriver en son temps. Là, si on résume, la Bible a demandé aux gens de fixer un temps fixe dans l'étude. C'est pour ça l'importance d'avoir un cours de Torah au moins une fois par semaine. Et si ce n'est pas une fois par semaine, plusieurs fois par semaine. C'est pour ça l'importance d'apprendre la mitzvah du jour, le chumash du jour. Et que quelqu'un doit se dire que même si je travaille, un temps je dois consacrer à l'étude. Alors même, comme l'a dit tout à l'heure, on parle tous sur l'importance de le travail. On parle aussi sur l'importance, on croit tous dans l'importance de donner la tzedaka et la philanthropie. Même si parfois c'est difficile de donner. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ils travaillent très dur et ils ont un certain montant qu'ils peuvent avoir. Et parfois, c'est difficile de sacrifier ses gains pour aider les autres. Les gens ils te disent, donner c'est bien, mais c'est difficile. Mais dans la tradition juive, donner la charité de ce que tu gagnes, pas seulement que ça n'enlève pas de tes propres besoins, mais c'est le meilleur moyen de pouvoir avoir encore plus de réussite. Comme le prophète nous dit, plus tu donnes, plus Dieu te donnera. Donne le maaser pour t'enrichir. Et c'est pour ça que l'Abbé demandait, en fonction de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, l'importance de pouvoir laisser au moins 10% le maaser, mais pas que 10, des fois plus, de leur profit pour la charité. La Bible expliquait que ça, c'était pour leur bénéfice matériel. Elle avait dit que la science spirituelle derrière cette théorie, elle est que par ça que quelqu'un est dans la charité de ses gains, et il dédie un pourcentage de ses gains à une cause beaucoup plus importante, il fait rentrer Dieu comme partenaire dans ses affaires. Et donc, en demandant la réussite, quel meilleur partenaire tu peux avoir dans la vie? Regardons le texte numéro 10, la page numéro 20, une lettre que l'Abbé a écrite en 1960. J'espère que à partir de maintenant, tu vas réaliser encore beaucoup plus, de manière beaucoup plus parfaite et confidente que Dieu est ton partenaire dans tes affaires, par ça que tu me donnes la tzedaka. Et c'est sûr que plus grand est la part de tzedaka que tu donnes, plus grand est la part de partenariat que Dieu il a avec toi. Et donc, par ça, tu peux aller être beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. Et j'espère attendre de toi des bonnes nouvelles. Rabbi demandait aux gens de donner pas seulement 10%, mais plus que ça. Dans une lettre, dans les Gottes Kodesh, volume 9, page 235, Rabbi dit, oh, pauvre, que tu m'as écrit, que tu ne trouves pas quelqu'un pour acheter ta maison que tu es en train de vendre. Tu devrais faire Dieu un partenaire dans les affaires, par ça que tu t'engages à donner plus que 10% de tes gains, et pourquoi pas proche de 20%. Et grâce à ça, plus tu as un tel partenariat dans tes affaires, plus tu es garanti de réussir. Parce que Dieu, en étant son partenaire, plus tu investis avec lui, plus le partenariat revient vers toi. Regardons ici cette magnifique vidéo dans laquelle on voit comment l'ami encourage Dieu, il encourage les gens à avoir Dieu comme partenaire dans leurs affaires en donnant la tzedaka. Mon business va très très mal. J'espère que tu veux donner bénédiction. J'avais dit, mets une boîte de tzedaka dans ton business, dans ton bureau. Et assure-toi de donner au moins 10% l'income net, du gain net de ton business. Dis merci Rabbi. Que Dieu te bénisse et mets ce dollar dans ta boîte de tzedaka, dans tes affaires. Et dis merci Rabbi. J'ai développé une nouvelle technologie. Je demande une bénédiction pour l'harmonie et la prospérité dans ma famille. L'invention que j'ai faite, elle a beaucoup de valeur. Il demande le rabbin dans l'électronique, du storage de data d'ordinateur, d'informations par le téléphone. On est les seuls à avoir créé ça en Israël. La bien que tu réussis, c'est que tu as de bonnes nouvelles. Mais tu dois promettre à Dieu de donner au moins 10% à la charité du profit net. Et dis bénédiction et réussite. J'avais dit, rajoute-moi un dollar. Ça ne doit pas être exactement 10%. J'avais dit, mais je dois donner 10%. J'avais dit, au contraire, ne sois pas 10% juste. Rajoute un peu sur les 10%. Au moins encore un dollar. Et encore une fois, on voit ça que l'Abbé l'a répété plusieurs fois. C'est ce que je dis quand les gens me demandent de combien il faut donner à ma sœur. L'Abbé dit à chaque fois que si tu veux que Dieu soit exactement pointilleux avec toi et qu'il soit exactement à la lettre, rigide, sois aussi rigide avec Dieu. Basé sur cette idée, on voit comment la Bible considérait que donner la charité, c'est nécessaire, même pour une personne, elle a des difficultés financières et qu'il ne voit pas les moyens comme elle pourrait donner. Et au contraire, la Bible considérait et il percevait les challenges et difficultés financières comme un moyen de pouvoir tester une personne s'il continuera à donner la tzedaka en surmontant les difficultés, en donnant quand il pense que c'est difficile à donner. Et grâce à ça, de pouvoir mériter encore plus. Plusieurs fois, il y a plusieurs points dans lesquels Rabbi disait que si quelqu'un a des difficultés, il peut être partagé sur plusieurs moments, partagé sur plusieurs fois. Mais ne jamais penser qu'on peut donner de zakat quand tout va bien. Au contraire, le test, c'est de donner de zakat quand on pense qu'il y a des difficultés et que ce n'est pas facile à donner. Dernier point pour aujourd'hui, c'est pour ça que Rabbi voulait qu'il y ait des boîtes de zakat dans chaque maison, dans chaque voiture, dans chaque bureau. À combien de fois Rabbi leur demandait de fixer une boîte de zakat chez eux à la maison? L'abbé leur demandait est-ce qu'ils ont une boîte de zakat dans le bureau, est-ce qu'ils ont une boîte de zakat dans le travail. Et sinon, ils les encourageaient à en avoir. Pourquoi? Et il leur donnait un dollar pour mettre ça dans la boîte de zakat. L'abbé demandait à chaque fois de s'assurer quelle était l'idée d'avoir une boîte de zakat fixe dans la maison, dans la cuisine, dans la chambre des enfants, dans la maison juive, dans le bureau, de transformer cet endroit en lieu juif et que ça donne justement la priorité à une personne ou à un business que quand tu communiques avec les autres personnes, ta responsabilité envers les autres de devoir agir envers les autres. Oui.
Du coup, quand
ils ont
le profit net, c'est le bénéfice ou c'est le chiffre d'affaires?
Ça va voir après comment calculer.
C'est le bénéfice.
Ça va voir après comment
c'est
calculer.
C'est le résultat net.
Assez pour l'avoir voir la dernière vidéo avec avec Mrs. Blau et juste après, s'il y a des questions, et après on verra bien sûr le résumé du cours qu'on a vu aujourd'hui. Écoutez cette magnifique histoire.
Rivka Blau is the daughter of Rabbi Mordechai Pinchas Teitz, a prominent rabbinic activist and chief rabbi of Elizabeth, New Jersey. In 1961, she was vice president
of
one of the first Orthodox student organizations on American college campuses.
Our mission statement was that we wanted to promote.
Nous voulions enseigner, on voulait justement propager l'éducation juive dans les campus.
I can't. I don't know the exact wording.
J'en veux pas exactement les mots. Mais on voulait que les gens soient plus au courant de leur judaïsme. On savait qu'on fallait faire beaucoup plus. On voulait avoir une présence sur le campus. C'était faire la pratique des mitzvot, etc. Et si les gens voulaient apprendre plus, on va les aider. On avait environ 13 ou 15 groupes de collèges à l'intérieur du système. Dans différentes universités, on avait différents étudiants. Le rabbi avait un représentant qui venait à Columbia University, qui était ami avec le président des Yavne. Son nom c'était Feller. Il a dit à Joël et à moi que le rabbi voulait rencontrer deux représentants des Yavne. Comment on a commencé, qu'est-ce qu'on faisait? On avait rendez-vous à 10h du soir, donc on arrivait ce samedi. On nous a demandé de rentrer voir le rabbi à minuit. Il nous a demandé beaucoup de questions détaillées, dans le détail. Comment on a commencé? Comment on a trouvé l'un à l'autre? Qu'est-ce qu'on a trouvé sur les campus? Quels étaient les problèmes? Quelles sont les possibilités? Quelle opportunité il y a là-bas pour les gens qui sont intéressés à trouver encore plus sur leur judaïsme? Comment on peut les approcher? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui ne marche pas? Des questions qui sont vraiment au point. À la fin, il a dit, je vous ai demandé beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez me demander une question? Je n'avais pas de questions à demander à Rémi. Je pensais que c'était un magnifique rendez-vous qu'on vient d'avoir. Je dis, non, thank you, j'ai rien à demander. Et la personne qui était avec moi m'a dit, oui, je demandais, je viens passer Shabbat ici à Cronite, à Brooklyn, avec ce jeune homme que je connais de Lubavitch. J'ai connu beaucoup d'histoires sur vous. J'ai que vous connaissez les choses mieux que les docteurs, que s'il faut faire une opération ou pas, mieux que les avocats, comment agir dans tel ou tel cas. Tu connais plus les médicaments que les docteurs, tu connais plus la loi que les avocats. C'est quoi ce business? Donc la vie l'a rigolé. Et la vie dit, tu sais, quand une maison elle est construite, l'architecte il fait les plans. Il donne les plans au contracteur, c'est lui qui va mettre les choses en application. Le contracteur il dit au plombier quoi faire, comment faire la plomberie, au maçon, comment faire la maçonnerie, à l'électricien, comment faire l'électricité. Mais c'est pas que le contracteur il le fait mieux que qui que ce soit. Mais il peut lire les plans. Et c'est pour ça qu'il a donné les instructions. Il a dit, Dieu, il a mis dans la Torah comment créer le monde. La Torah, c'est le plan avec lequel le monde vit. Donc si quelqu'un comprend la Torah, il peut dire aux autres personnes comment trouver dans la Torah la manière de pouvoir réussir dans son expertise, etc. Et ça résume tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme les gens ils disent, pourquoi tous ces gens-là sont venus voir le rabbi avec toutes ces différentes questions? C'est pas que ces gens-là se disaient à leur vie, c'est un coup de baguette magique. Le rabbi regardait à travers les valeurs de la Torah, à travers les valeurs de la Torah, il était capable de leur enseigner. Au final, chers amis, on a la fin... la semaine prochaine, si Dieu veut, on rentre de le bureau à la maison. Et la semaine prochaine, on verra justement la clarté sur tout ce qui est la relation familiale, tout ce qui est l'harmonie domestique, l'éducation, comment créer un environnement magnifique à la maison. Pour l'instant, on termine avec la dernière vidéo qui est les key points, qui veut dire les points résumés de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et c'était vraiment passionnant, intéressant de découvrir, je veux dire, sur le bout du doigt, l'approche de la vie par rapport au travail. Sans ce travail. Numéro 1. Les gens venaient voir le rabbi sur tous les différents aires de la vie. Une compréhension profonde de la Torah. Deuxièmement, le travail, ce n'est pas juste quelque chose de nécessaire pour gagner sa vie. Mais c'est un but en soi. Dieu, il a fait créer le monde d'une manière qu'on soit majoritairement du temps occupé à pouvoir faire et travailler les choses matérielles. Le travail donne des opportunités pour inspirer les autres à devenir des meilleures personnes et gagner de l'argent. On donne la possibilité d'être partenaire avec Dieu en donnant la charité aux autres. 4. Le rabbi était avec un regard très critique sur la retraite, parce que le travail, c'est notre moyen de remplir le but pour lequel Dieu nous a créés sur terre. Et 5, l'investissement spirituel a aussi le secret de réussir dans tous les domaines de la vie, inclus financière. Et c'est pour ça que le rabbi, il donnait l'accent sur renforcer sa foi en Dieu, pratique de Shabbat, mettre du temps pour apprendre la Torah et donner la charité comme succès spirituel, succès financier, pardon. Le cours sera replacé sur etorah.fr.